Vatican II, le Concile en question, avec Monseigneur Marc Hayet.
Donc on a dit déjà que l'essentiel du désaccord des pères à propos des schémas préparatoires au Concile est lié à deux courants théologiques qui s'affrontent. Le premier, c'est ce que l'on appelle la théologie scolastique, néo-scolastique, qu'on appelait aussi la scolastique baroque, qui inspirait, comme je l'ai dit déjà la dernière fois, les manuels de théologie, alors en usage dans les séminaires, mais qui n'était plus assez irrigué par les sources scripturaires et patristiques. La théologie a pour fondement, évidemment, la parole de Dieu, l'Écriture sainte, telle qu'elle est transmise en particulier par les premiers pères de l'Église, dont la théologie est plus affective, plus pastorale que spéculative, et peut-être que cette théologie néo-scolastique, dans sa recherche légitime de définitions conceptuelles précises qui permettent d'éviter les erreurs doctrinales, eh bien, n'était plus assez proche de ses sources. Cette théologie néo-scolastique s'est opposée à l'époque à ce qu'on a appelé, comme je l'ai dit la dernière fois, la nouvelle théologie, qui était née à la faveur d'une redécouverte heureuse de l'Écriture sainte et des pères de l'Église, et dont les pères d'Agnelloux, les pères de Lubac, des jésuites bien connus, étaient les principaux protagonistes, en particulier avec le lancement de cette grande collection que tout le monde connaît bien, qui est les sources chrétiennes, où on a repris les pères de l'Église, leurs œuvres, et qui ont été traduites avec des notes critiques, de manière à les rendre accessibles comme source de la théologie. Les défenseurs de cette nouvelle théologie n'étaient cependant pas toujours, forcément, exempts d'une certaine réaction antiscolastique et par conséquent antithomiste. Parce que le thomisme de la néoscolastique était un peu réduit à des formules conceptuelles un peu dégagées de leurs sources. C'était malheureusement sans compter avec un profond renouveau thomiste qui a marqué le début du XXe siècle et qui a été porté surtout par les dominicains, du point de vue de la théologie en tout cas, à travers l'école du Solchoir, en particulier avec le père Chenu, comme figure de proue, qui s'était développé en particulier grâce à la mise en œuvre de ce qu'on appelait la méthode historique d'interprétation de saint Thomas. On revenait ainsi à la grande scolastique médiévale, dont saint Thomas est un représentant particulièrement fameux, dont l'horizon théologique était essentiellement l'Écriture sainte et les pères de l'Église. Et on ne reniait pas pour autant les grands commentateurs de saint Thomas d'Aquin qui ont excellé dans la méthode spéculative d'interprétation de ses œuvres. Mais on redécouvrait le saint Thomas bibliste. On redécouvrait que toute la théologie scolastique de saint Thomas d'Aquin, qui utilise en effet une méthode très dialectique et spéculative, eh bien, est une théologie profondément biblique, parce qu'elle s'inspire d'une connaissance, d'un commentaire de l'Écriture sainte, en particulier avec les pères de l'Église qui, encore une fois, sont plus proches de l'Écriture sainte que nous, qui nous en sommes forcément éloignés avec les siècles. Donc on voit bien qu'il y a deux courants théologiques qui risquent de s'affronter, celui de la néoscolastique, avec sa rigueur conceptuelle, portée par la curie romaine qui a préparé les schémas proposés à l'examen des pères du Concile, et puis cette nouvelle théologie qui a été trop vite considérée comme une théologie moderniste, mais qui au fond a pour fondement l'Écriture sainte, et les pères de l'Église comme une redécouverte des sources authentiques de toute théologie. Et où saint Thomas d'Aquin, d'ailleurs, est redécouvert dans cette optique grâce à la mise en œuvre de ce qu'on appelait la méthode historique.